Nous prenons le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, nous prenons le chapitre 8, 1 Samuel chapitre 8. Verset 1er, lorsque Samuel devient vieux, il y établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur reconnaître le droit du roi qui règnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez des esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Amen. À cette époque-là, bien qu'il y avait d'autres nations, la particularité du peuple d'Israël était qu'eux n'avaient pas de roi comme les autres nations en avaient. Israël n'avait que pour roi, n'avait que pour chef l'Éternel lui-même. Et l'Éternel suscitait des intermédiaires entre lui et le peuple, qu'on appelait des prophètes ou qu'on appelait des juges. C'était eux qui étaient censés mettre en pratique les jugements qui venaient du Seigneur. Ils n'avaient pas de roi, ils n'avaient pas de fonctionnement comme les autres nations. Alors, à cette époque-là, c'était le prophète Samuel qui était juge en Israël, qui était prophète, donc qui était l'intermédiaire principal entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est par lui que le Seigneur Dieu faisait connaître sa volonté pour exercer ses jugements au milieu du peuple d'Israël. Et voilà que les gens vont se plaindre en disant, mais voilà Samuel, tu es vieux, bientôt tu ne seras plus au milieu de nous, et ce sont tes fils qui sont appelés à prendre ta relève. Mais voilà, tes fils se comportent très mal. Donc nous ne voulons pas de juge comme tes fils. Alors avant que tu ne meures, prie l'Éternel parce que nous voulons un roi comme les autres nations en ont. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, ne voulait plus s'identifier directement à son histoire, ne voulait plus s'identifier à l'appel qu'il avait reçu de Dieu, mais il a voulu s'identifier tout simplement au monde, à vouloir faire comme les autres. Et ce sont des réalités que nous voyons aujourd'hui encore même dans le monde chrétien. Ceux qui ont confessé, donné leur vie au Seigneur, ceux qui confessent aujourd'hui appartenir au Seigneur, eh bien, quelquefois, jette un petit peu le regard sur ce qui se passe à l'extérieur et tente de faire la même chose, tente de s'identifier par rapport à ce que le monde propose. C'est la raison pour laquelle il y a des chrétiens qui sont dans la mode vestimentaire, dont ils suivent la mode en fonction de ce que le monde dicte, et ils regardent, ils se laissent influencer pour faire comme les gens du monde. Le problème, ce n'est pas le vêtement. Le problème, c'est de vouloir s'identifier à un peuple qui n'est plus le nôtre, puisque désormais nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes le peuple du Seigneur. Donc nous n'avons plus vocation à nous, à nous comparer aux autres ou à nous laisser influencer par ce qui se fait dans le monde. Malheureusement, c'est le constat que nous faisons encore aujourd'hui. Alors le Seigneur dit à Samuel, qui était triste de voir l'attitude du peuple, il lui dit non, la réalité c'est pas toi qu'ils rejettent. Le fond de leur pensée, c'est qu'en réalité ils ne veulent plus que moi Dieu je règne sur eux. Donc en te rejetant toi, en rejetant ton autorité, ils se cachent derrière un homme. Mais la réalité c'est que c'est moi qu'ils rejettent en vérité. Ils veulent justifier que leur position est due au fait que ceux qui doivent régner sur eux par la suite, qui doivent les conduire, ne marchent pas en règle. Est-ce que le Seigneur n'est-il pas capable de susciter une personne qui va faire paître son troupeau comme lui il le veut? C'était la demande ou la requête que le peuple d'Israël aurait dû faire pour montrer clairement qu'ils sont attachés à Dieu et qu'ils ne désirent aucun autre roi que Dieu seul sur leur vie. Mais ce n'était pas le cas. Ils voulaient rejeter Dieu et ils ont prétexté ça en disant « les hommes qui nous dirigent ou qui sont appelés à nous diriger sont mauvais ». Une fois de plus, c'est le constat que nous faisons aujourd'hui dans le monde chrétien. Il y a des gens qui vont être déçus par un pasteur, déçus par un frère dans l'église, déçus par une église peut-être, et ils trouvent le moyen de quitter la vie du Seigneur en justifiant qu'il n'y a pas de vraie église, en justifiant qu'il n'y a pas de vrai pasteur. Alors, ils préfèrent maintenant gérer sa propre vie comme les gens du monde le font. Mais la Bible est claire, le Seigneur dit que viendra un temps où il nous donnera des bergers selon son cœur. Cette promesse-là, elle est pour nous. Donc plutôt que de justifier que tu n'es plus chrétien ou que tu ne vis pas comme un chrétien parce que ton pasteur t'a déçu, parce que le frère t'a déçu ou la sœur t'a déçu, prie tout simplement le Seigneur qui t'envoie vers un berger selon son cœur à lui afin que tu restes dans le projet de Dieu et que tu restes dans le système selon le Seigneur. Mais les gens se cachent au lieu d'avouer que tout simplement ils trouvent que la vie de Dieu est trop embêtante, ils trouvent qu'avec le Seigneur il y a trop de restrictions, ils veulent justifier leur légèreté. Ils veulent justifier le fait qu'ils marchent un pied dans l'église, un pied dehors, en disant que les chrétiens sont mauvais et qu'il n'y a pas de vrais serviteurs. Alors c'est pour ça que je vis de cette manière. Mais le comportement de l'homme n'a pas changé. La Bible nous dit que ce qui est, c'est ce qui a déjà été. Et ce qui a déjà même été appelé par son nom. Et lorsque nous lisons même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit que c'était la coutume de certains de quitter leur assemblée. Beaucoup avaient pris cette habitude-là, de quitter pour des choses en réalité qui n'en valent pas la peine. Mais c'était tout simplement pour être libre dans la vie qu'ils s'est choisi, qu'ils se choisissent. Être libre de vivre les penchants de leur cœur et de céder tranquillement à leurs tentations, à leurs convoitises. C'était ça la vraie raison. Et voilà que ces hommes-là ont voulu justifier que on ne veut plus on veut pas de tes enfants parce que ils ne sont pas droits. Mais le Seigneur avait compris que la réalité, ce ne sont pas les enfants de Samuel. La réalité, c'est qu'ils ne veulent plus que moi je règne sur eux. Alors, puisque Dieu ne s'impose pas, comme il le dit dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Et il ne frappe pas simplement le jour de la conversion. Il frappe à notre porte à chaque fois qu'il veut nous emmener dans une orientation. Quelque chose qui ne plaît peut-être pas à notre chair, le Seigneur ne nous l'impose pas. Il nous dit, voilà ce que je voudrais faire avec toi. Voilà où je voudrais que tu ailles. Qu'est-ce que tu en dis? Certains disent oui, d'autres disent non. D'autres disent, je ne sais pas. Et ils tournent en rond en attendant que le prochain wagon passe, mais peut-être que le prochain train ne passera pas. Toujours est-il que Dieu ne s'impose pas. Alors, puisque Dieu ne s'impose pas, il dit à Samuel, il n'y a pas de souci. Puisqu'ils ne veulent plus de moi, je ne veux pas m'imposer sur leur vie. Voilà, dis-leur qu'ils sont libres en ce qui me concerne. Tu vas leur donner un roi, mais avertis-les sur les droits que le roi aura sur leur vie. Dieu ne s'impose pas. Tu veux vivre ta propre vie en pensant que la vie du monde est meilleure. Le Seigneur dit, ok, il n'y a pas de problème. Fais ta vie puisque tu es libre, puisque tu es intelligent, puisque tu es fort, puisque tu maîtrises peut-être le jour de ta mort. Donc Dieu ne s'impose pas, il dit fais tout simplement ta vie. On voit lorsque certains disciples ont quitté le Seigneur parce qu'ils ont jugé que sa parole était trop dure. Mais le Seigneur n'a pas cherché à les rattraper parce qu'il ne s'impose pas dans la vie des gens. Il a même influencé les 12 qui étaient restés. Il leur a dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Il voulait les inciter à partir, mais eux, ils avaient fait leur choix. Leur choix était clair, ils étaient positionnés. Même s'ils n'avaient pas tout compris, mais le peu qu'ils avaient saisi de leur Seigneur, eh bien, a suffi pour convaincre leur cœur de demeurer avec lui. Et ils sont restés fermes. Mais d'autres ont prétexté, non, c'est trop dur, je préfère quitter et aller là où je vais. Et puisque le Seigneur ne s'impose dans la vie de personne, il les a tout simplement laissés partir. Jamais nous avons vu le Seigneur courir après nous, nous imposer, s'humilier, solliciter, non, viens, j'ai besoin de toi. Non, le Seigneur a sacrifié son Fils unique. C'est la démonstration de son amour, c'est la preuve qu'il nous aime. Et il n'y aura pas une autre preuve, beaucoup plus grande que celle-ci, que le Seigneur fera pour nous maintenir dans son salut. Il estime que ce qu'il a démontré est suffisant pour que nous puissions lui faire confiance et nous attacher à lui. Le peuple d'Israël avait une histoire. Ils étaient esclaves en Égypte pendant près de 400 ans. Ils ont souffert en Égypte. Ils ne vivaient que pour les désirs des Égyptiens. Ils ne vivaient que pour construire le pays des Égyptiens. Ils n'avaient pas une vie propre. Et le Seigneur les a délivrés. Il a fait toutes sortes de prodiges et des miracles. Il les a conduits dans le désert. Il les a emmenés jusqu'à Canaan, la terre qu'il avait promis depuis Abraham. Il a accompli toutes ses promesses. Et le Seigneur estimait que tout ce qu'il avait fait avec l'histoire d'Israël était suffisant pour que ce peuple-là s'attache à lui et lui fasse confiance. Mais ça n'a pas été le cas. Ils ont oublié le passé. Ils ont oublié d'où ils venaient. Et ils ont dit, nous voulons un roi aussi comme les autres. Après avoir passé tant de temps avec le Seigneur, sous la protection de Dieu, sous la bénédiction de Dieu, ils ont dit, désormais, nous voulons faire comme les autres nations. Donne-nous un roi. Alors, Samuel va obéir à la parole de Dieu et expliquer maintenant à ce peuple-là. Voilà les droits que le roi aura sur vos vies. Vous n'allez plus vivre parce que ce que vous appelez vos terres, il sera libre de les prendre à son bon vouloir. Quand il décidera de prendre vos terres, il les prendra. Vous avez mis du temps, certainement pour avoir des enfants. Vous vous glorifiez dans vos fils, vous vous glorifiez dans vos filles. Mais sachez que même vos filles, il les prendra pour en faire des boulangers et des parfumeuses. Donc ça veut dire que celles que vous considérez comme votre enfant aujourd'hui, le jour où le roi s'élèvera et décidera de la prendre de chez vous pour en faire une de ses servantes, vous n'aurez rien à dire. Vos fils qui font votre gloire, eh bien, deviendront aussi des soldats du roi. Il aura l'autorité et le droit de le faire. Ce n'est pas comme si le roi allait agir comme un dictateur qui s'impose, mais il agit avec le mandat de Dieu. Et dans le mandat que Dieu va lui donner, tous ces droits-là sont légitimes. Personne ne pourra contester le roi dans toutes les décisions qu'il prendra sur vos terres, sur vos familles, sur vos maisons, sur tout ce qui vous appartient. Votre vie appartiendra au roi. Et il dit, vous deviendrez ses esclaves. Voilà les droits que le roi aura sur vous. C'est une manière de leur dire. Regardez les conséquences de votre choix. Vous avez peut-être fait un choix aujourd'hui sans réaliser ce qui va se passer après. Sans réaliser les conséquences de votre choix. Il y a des gens qui sont comme ça, qui disent oui rapidement et qui réfléchissent après. Dans Proverbes 20-25, il est écrit que c'est un mal à l'homme que de prendre une décision à la légère, de ne réfléchir qu'après, de prendre une décision sacrée. C'est très dangereux et beaucoup disent oui rapidement. Et lorsqu'ils se rendent compte que finalement il y avait des petits traits dans le contrat mais qui ne correspondent pas à leur volonté, ils sont là à s'irriter, à courir, chercher, comment revenir en arrière, comment annuler le contrat. Il fallait prendre le temps de lire le contrat. Et le peuple a dit, nous voulons. Mais c'était une manière de les avertir. Parce que au moment où Samuel est en train de dénoncer les droits que le roi aura sur eux, le Seigneur leur tend encore la perche pour leur dire, vous pouvez encore renoncer maintenant. Regardez tout ce qui va se passer. Vous pouvez encore renoncer maintenant. Il y a des gens qui quittent la voie du Seigneur. et qui pensent être maîtres de leur vie, qui ne calculent pas à la défense, à la dépense par rapport aux actes et à la vie qu'ils se sont choisis. Et il suffit juste de regarder ceux qui ont fait ces choix-là avant eux. Ils voient que beaucoup ne sont pas revenus dans le Seigneur. Ils voient que beaucoup se sont perdus. Mais ils prennent quand même le risque d'aller au-delà de ce que le Seigneur leur permet. Ils font sciemment ce choix-là, de s'éloigner du Seigneur et de décider à vivre comme les autres nations. Tous ces droits-là vont s'appliquer. Alors le Seigneur nous interpelle. Nous qui avons fait le choix de marcher avec lui, qui avons fait le choix de devenir ses enfants, d'être ses serviteurs, mais qui, quelquefois, sont tentés par ce que le monde offre, sont influencés par les amis du monde, sont influencés par tel membre de la famille qui n'est pas converti. Et la tentation de vivre un petit peu comme eux, eh bien, est grande, parce que quelquefois, on a le sentiment de se lasser un peu dans la vie de l'Église. Le sentiment qu'avec le Seigneur, c'est l'ennui. Le sentiment que ce sont tout le temps les mêmes choses qui se répètent. Alors la tentation de faire comme les autres, eh bien, est tout simplement grande. Mais le Seigneur nous met en garde. Il dit que lorsque vous sortez de ma volonté, lorsque vous sortez de mon autorité, attention aux conséquences. Il n'y a pas trois camps sur la terre. Il n'y a que deux camps. Le camp de Dieu ou le camp du diable. Même si tu ne discernes pas le diable directement dans ce que tu considères comme étant lié à toi-même, ton propre péché, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est que forcément tu as fait la volonté de quelqu'un d'autre. Les choses sont établies comme ça. Et le peuple d'Israël, en sortant de l'autorité de Dieu, eh bien, ils entraient tout simplement dans une autre autorité parce que Dieu se retirait. Le Seigneur ne nous impose rien. Chacun d'entre nous, nous sommes venus ici ce soir parce que nous l'avons tout simplement décidé. Personne n'est venu frapper à notre porte pour nous l'imposer. Il n'y a pas une voix qui s'est fait entendre du ciel pour te dire « Tu iras avec tes frères te réjouir en mon nom ce vendredi-là. » Ce sont des choix que nous avons faits. Tout comme il nous est arrivé de faire quelquefois des choix aussi de ne pas venir à l'église pour des raisons quelquefois qui n'étaient pas spécialement valables. Ça nous est arrivé de rester à la maison uniquement par paresse, uniquement parce qu'on ne se sentait peut-être pas utile ou bien qu'on considérait qu'après tout, le pasteur, les diacres, les anciens sont là-bas, c'est eux qui font l'œuvre du Seigneur, donc ça suffira. Plusieurs fois, ça nous est arrivé de sortir de la voie de Dieu, mais personne ne peut dire que Dieu lui a imposé quoi que ce soit, parce que le Seigneur nous a laissé maître dans notre volonté, maître dans nos choix. Et c'est ce qui s'est passé là avec Israël. Ils ont décidé, et malgré les avertissements, et le Seigneur leur donne cette parole, au verset 18. « Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. » Le roi que tu t'es choisi, en sortant tout simplement de la domination que le Seigneur avait sur toi, la royauté que le Seigneur avait sur toi, lorsque tu sors de cela, eh bien, tu te mets tout simplement sous la domination de quelqu'un d'autre. Et puisque c'est un choix qui est volontaire, le Seigneur dit que lorsque le malheur te trouvera à cause du choix que tu as fait, il ne va pas t'entendre. Il n'écoutera pas. Donc le Seigneur te laissera vivre eh bien, tout simplement la réalité de tes propres choix. On peut aujourd'hui être au Seigneur entre guillemets à 50%. Ça veut dire que ta maison, tu l'as vraiment consacrée à Dieu. C'est une maison de prière. Tu élèves tes enfants selon le Seigneur. Mais l'argent qui est à côté, lui, il te domine. Donc, comprenant que la royauté dont il est question là, c'est pas simplement que Dieu règne sur ta maison. C'est pas simplement que Dieu règne sur ta propre vie à toi. C'est pas que Dieu règne simplement sur ton argent. C'est que Dieu règne sur l'ensemble de tout ce que tu considères être à toi. Alors, il y a des domaines dans notre vie que nous avons peut-être donnés au Seigneur. Mais il y a d'autres domaines de notre vie où Dieu n'est pas roi. Il y a des domaines de notre vie où nous sommes nous-mêmes notre propre chef. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons de ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est nous qui décidons de la façon dont on va gérer notre argent aujourd'hui. Pourtant, on a peut-être consacré nos enfants à Dieu. Peut-être qu'on est engagé même dans un service à l'église. Mais il y a quelque chose qui est à nous, pour laquelle nous avons donné une grande valeur, que nous n'avons pas confiée à Dieu. Le Seigneur nous appelle à être clair dans notre position. Il ne faut pas que les choses soient comme embrouillées. Vous savez, ce qui embrouille, c'est lorsqu'on a le sentiment que la personne aime le Seigneur, mais en même temps, elle prêche quelque chose qui est contradictoire aux Écritures. C'est ça qui emmène la confusion dans la vie de beaucoup de chrétiens, qui ne savent pas quelquefois où aller, qui ne savent pas quelquefois qui suivre, parce que son pasteur semble aimer la vérité. Mais en même temps, il a un amour pour l'argent qui est quand même étonnant. Donc cette confusion-là emmène du désarroi dans la vie de certains chrétiens qui disent « Mais finalement, où est-ce qu'il y a la vérité ?» Parce que tel prétend avoir telle vérité, lorsqu'on le voit vivre, on a le sentiment qu'il est vrai. Mais à côté, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un pasteur qui est au Canada, que j'écoutais sur Internet, et j'ai vraiment été touché par ce qu'il disait. J'ai dit, mais il y a vraiment des gens qui prêchent la vérité sans compromis. Et voilà que, quelques temps après, on m'envoie un autre article où il est habillé avec les vêtements comme les cardinaux. En rouge. Ah. Donc, lorsque tu vois la prédication, tu dis, mais il est certainement dans la vérité. Mais on te montre autre chose, tu te dis, mais finalement, que faire? Qui écouter, où aller? Ça emmène la confusion parce que les enfants de Dieu n'ont pas une position claire. Il y a des personnes qui sont dans des assemblées, qui sont engagées dans leur assemblée, mais qui mangent à la table de ceux qui travaillent pour détruire l'assemblée là où lui, il est intégré. Mais c'est une confusion. En même temps, tu te bats pour que l'œuvre dans laquelle tu es engagé fonctionne et que le nom du Seigneur soit glorifié. Et en même temps, tu manges à la table de celui qui cherche à détruire là où vont tes enfants, là où vont tes frères, là où les gens travaillent dans le sérieux. Et tu manges tranquillement avec eux. Et ça emmène la confusion de savoir, mais finalement, est-ce que tu es véritablement engagé ou pas? Est-ce que tu es véritablement un enfant de Dieu ou pas? Lorsqu'on lit les psaumes, David dit, j'ai la haine contre ceux qui combattent la parole de Dieu, ceux qui ne mettent pas en pratique la parole. Il dit, j'ai une haine vis-à-vis de ces gens-là. C'est une manière de dire qu'il ne peut pas être ami avec celui qui rejette son Dieu. Ouvertement. On ne parle pas de celui qui est dans l'ignorance. On parle de celui qui cherche à détruire sciemment. Et c'est la réalité qu'on retrouve. Parce que les chrétiens ne veulent pas se positionner. Ils ne veulent pas se positionner parce qu'ils ne veulent pas perdre une amitié. Mais une amitié dans la chair, ce n'est pas une amitié qui plaît au Seigneur. Le Seigneur ne marche pas dans tout ce qui est charnel. L'amitié doit être avant tout spirituelle. L'amitié, selon Dieu, ne peut pas être mélangée avec les désirs de la chair. Ça ne marche pas. Ou bien nous sommes pour le Seigneur, ou bien nous ne sommes pas pour le Seigneur. Ou bien nous avons choisi que le Seigneur soit notre roi. Et par conséquent, toute notre vie et tout ce qui nous appartient est sous la coupe du Seigneur. Mais entre les deux, ce n'est pas possible. Entre les deux, ce n'est pas possible. Nous avons besoin d'être positionné. Ou bien c'est blanc, comme on dit dans le monde, ou bien c'est noir. Mais entre les deux, ça ne marche pas avec le Seigneur. Le Seigneur ne se plaît pas et ne se retrouve pas dans un fonctionnement où les choses ne sont pas dites clairement. Nous devons être clairs dans nos choix. Nous devons être clairs dans notre parole. Nous devons être positionnés. Lorsque tu parles avec une personne, en ce qui concerne la vérité, en ce qui concerne le Seigneur, tu dois te rassurer que quand la personne part, qu'il n'y a pas de confusion, que ta position a été claire, que la personne ne te dit pas « je n'avais pas bien compris ». Assure-toi lorsque tu t'exprimes qu'il a compris que soit c'est blanc, soit c'est noir. Mais quelquefois, on a peur de dire la vérité et on tourne autour du pot. On arrondit les angles, oui, mais tu sais. Et la personne, quand elle repart, et qu'elle discute, non, le frère, j'ai parlé avec lui, il est d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été clair. Tu as été ambigu dans tes propos. et la personne utilise ça pour dire que j'ai un appui avec moi. Il faut que la personne soit claire, il faut que nous soyons clairs de façon à ce que ton nom ne soit pas associé à un mensonge ou à un choix dans lequel le Seigneur n'est pas. On doit se positionner, c'est ce que le Seigneur nous demande. Arrêtons d'être dans le flou, bien-aimé. Les gens ont besoin de connaître la vérité. Mais la vérité, lorsqu'il y a le flou, emmène la confusion, même chez ceux qui cherchent véritablement le Seigneur. Les gens ont besoin de faire la différence entre ce qu'un chrétien véritable et ce qui est un chrétien de nom. Dans le livre de Malachie, le Seigneur dit, « Viendra un temps où je ferai la différence entre ceux qui me servent vraiment et ceux qui ne me servent pas. » Mais cette différence se fait dans notre façon à nous de vivre, dans notre façon à nous de présenter l'Évangile, dans notre façon à nous de nous exprimer en tant qu'enfant de Dieu. On doit faire la différence afin que lorsque la personne part, après t'avoir entendu, après t'avoir vu, qu'elle ne se pose même pas la question, mais est-ce qu'il est catholique ou pas lui ? Non, parce que ta façon de présenter le Seigneur, ta façon de parler de l'Évangile, montre clairement que tu ne te soumets pas aux statuettes. Montre clairement que tu ne pries pas la reine du ciel. Montre clairement que ton Jésus à toi n'est pas sur la croix, mais qu'il est ressuscité et qu'il règne par ta façon de t'exprimer. Mais lorsqu'on a peur de blesser, entre guillemets, on ne veut pas dire tout de suite la vérité, on tourne autour du pot, on essaie de caresser un peu les angles pour ne pas blesser la personne, pour éviter que la prochaine fois que je vienne voir la personne, qu'elle ne me ferme pas la porte au nez. Alors on arrange les angles, excusez-moi. Voilà. Alors on arrondit les angles de façon à ne pas blesser la personne, mais en arrondissant les angles, bien-aimés, on n'aide pas non plus la personne. On va prendre quelques exemples qui nous montrent des serviteurs de Dieu qui avaient consacré leur vie à Dieu. Et vous savez, quand on consacre la vie à Dieu et qu'on a pour ami le Seigneur, on ne craint pas de perdre les amis dans le monde. On ne le craint pas. Autant tu peux être proche avec une personne, autant vous pouvez vous séparer à cause de la vérité. Ça peut te faire mal aujourd'hui, mais demain la vie recommence et on continue avec le Seigneur. C'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il y aura la division dans la maison. Et le Seigneur le dit sans ambiguïté, c'est clair quand il parle comme ça. Il dit, il y aura division entre la belle-mère, la belle-fille, il y aura une division. Entre le père et le fils, il y aura division à cause de la vérité. Le Seigneur ne se cache pas. Mais cette prise de position-là, nous avons du mal à la prendre. Mais le Seigneur, lui, se manifeste là où il y a l'obéissance. Lorsqu'il sort le peuple d'Israël pour l'emmener vers Canaan et qu'il lui donne toutes sortes de recommandations à travers le Lévitique, à travers le Deutéronome, il dit, moi, je suis un Dieu saint, c'est-à-dire je suis à part. Puisque je suis à part, vous aussi vous serez à part. Je vous envoie dans un pays. Regardez comment ces gens-là vivent. Mais vous ne vivez pas de cette manière. Vous vivrez comme moi, je vous le demande. Vous vivrez à l'inverse total de ce qu'ils font. Et le Seigneur dit que si vous faites ainsi, moi je guérirai votre pays. Si vous acceptez d'être contradictoire à la logique du monde, à la logique du pays dans lequel je vous envoie, vous acceptez d'être regardés comme des extraterrestres, comme des gens qui sont fous. C'est de cette manière-là que moi, je vais manifester ma gloire. Mais si c'est en caressant les gens, en pensant que c'est pas des paroles doucereuses et gentilles que on va emmener les gens au salut, les gens ne se convertiront jamais. Parce que nous n'avons pas la capacité à convertir les gens. C'est pas par nos paroles que les gens se convertissent. Les gens se convertissent par la conviction produite par le Saint-Esprit. Nous, nous parlons et le Saint-Esprit convainc. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. C'est pas par nos paroles que nous allons emmener les gens à être sauvés uniquement parce qu'on a parlé. Les gens vont se convertir parce que le Saint-Esprit va les convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous prenons le livre de Josué, chapitre 24. Josué, chapitre 24. Le livre de Josué est un livre de conquête, c'est un livre où on lit énormément de guerres. Puisque Josué avait reçu la mission d'achever ce que Moïse avait commencé. C'est Josué 24, à partir du verset 14. Et après avoir fait toutes les missions que le Seigneur avait demandé à Josué de conquérir tout le pays de Canaan, Josué va parler au peuple. Dans le chapitre 24, il va leur rappeler tous les faits passés. Il va leur rappeler tout ce qui s'est passé et comment ils en sont arrivés jusqu'aujourd'hui. Verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voilà ce que Josué dit. Il rappelle au peuple tout ce que le Seigneur a accompli. Il rappelle au peuple de se souvenir de tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Il dit maintenant que tout ça est passé. Pour une fois pour toutes, une fois pour toutes, faites un choix. Ou bien vous servez Dieu parce que vous reconnaissez que c'est lui le vrai Dieu. Après tout ce que vous avez vécu, après tout ce que Dieu a montré, après les exploits que le Seigneur a fait, si vous réalisez et vous avez compris que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant, une fois pour toutes, positionnez-vous. Ayez une position qui est claire, qui montre clairement que oui, véritablement, vous avez choisi le Seigneur. Il dit, mais maintenant, si vous n'avez pas choisi Dieu et que vous trouvez qu'il est bon pour vous de vivre comme dans le passé, de vivre comme les autres nations dans le pays où vous habitez, faites-le, mais ne mélangez pas. Il faut que ça soit clair. Le Seigneur dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Le Seigneur préfère que tu sois froid, c'est-à-dire que ta position est claire. Que tu sois bouillant pour lui, ta position est claire. Mais si tu es tiède, ça veut dire que c'est ambigu. On ne sait pas réellement si tu es à gauche ou à droite, si tu es bouillant ou chaud. Il y a un mélange qui est là, qui emmène une confusion de savoir est-ce que on peut compter sur lui ou pas. Lorsqu'on était dans le monde, ou même pas forcément dans le monde, même dans la famille, lorsqu'il y avait un peu des partis pris par rapport à une décision à prendre, ben, il y a des gens qui étaient toujours un peu entre les deux. Mais on disait, mais dépêche-toi de choisir. Ou bien tu vas là-bas, ou bien tu viens avec nous. Mais entre les deux, c'est pas possible. Ça amène une confusion. Et cette confusion-là va même créer, je dirais, un manque de confiance des autres vis-à-vis de toi. Une personne qui n'est pas claire, mais on ne lui fait pas confiance. Parce qu'on se dit, ah, aujourd'hui il peut dire ça, demain il va changer encore. Donc quand ta position n'est pas claire, les gens aussi ne te font pas confiance. Et le Seigneur, lorsqu'on n'est pas clair, il ne nous fait pas confiance. Il ne peut pas nous confier des responsabilités parce que notre position n'a pas été manifestée de façon claire. Le Seigneur a besoin que ça soit clair. Et c'est ce que Josué disait. Il dit, pour moi, le choix est clair. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, mon choix ne dépend pas de vous. Je ne vais pas faire un choix de groupe. Suivre l'élan du groupe pour dire, bon, moi aussi j'y vais, dit non. Faites votre choix. Mais en ce qui me concerne, le choix est déjà fait. Parce qu'il y a des gens aussi qui observent, qui regardent là où il y a la majorité. Là où il y a la majorité, c'est là où il se sent fort. Il a le sentiment que plus le nombre est grand, plus ça veut dire que la raison et la vérité se trouvent là. Il ne choisit pas la vérité en fonction de ce que Dieu dit, mais en fonction de ce qu'il voit. Et il est là en train de balancer. Ça veut dire que quand le nombre diminuera un jour là, et que ça va augmenter de l'autre côté, il va aussi changer de côté. Et la position n'est toujours pas claire. Et ça fait des années. On le voit à gauche, on le voit à droite. Quand à droite ça ne va pas, il revient à gauche. Quand à gauche ça change, il revient à droite. Il y a une confusion qui est totale. Et qui fait que on ne peut pas te faire confiance. Le Seigneur ne peut pas faire confiance à quelqu'un dont la position n'est pas claire. Et c'est ce que Josué voulait, comment dire, dire au peuple, c'est ce qu'il expliquait au peuple. Faites un choix maintenant. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait du mélange. Si tu choisis de venir vers le Seigneur, tout ce que tu regardais comme Dieu, jette tout, casse tout. Tu es venu au Seigneur et il y a encore dans ta vie des restes que tu dis non, c'est comme le souvenir, il faut que je me souvienne d'où je venais, que je me souvienne d'où je viens parce que voilà, ça m'aide à être reconnaissant. Non, c'est faux. Je vous ai raconté une fois un témoignage. Un frère qui m'avait appelé et la fille avec qui il vivait avait la statue de Bouddha dans la maison. Et lui, qui était chrétien boiteux, luttait quand même pour instaurer un peu de vérité dans la maison, puisqu'il n'était même pas marié. Et puis, la personne m'appelle pour me dire, oui, mais qu'est-ce que ça fait si j'ai la statue de Bouddha chez moi? Ça fait partie de mon déménagement, mais je ne me prosterne pas, je ne l'adore pas. Mais pourtant, elle reconnaissait quand même que Dieu était Dieu. Elle n'avait pas fait le pas de s'engager concrètement, mais elle était quand même dans la logique où la vérité se trouve en Jésus. Alors, je lui dis, ok, tu peux garder la statuette. Est-ce que tu accepterais que le monsieur avec lequel tu vis marche aussi dans son portefeuille avec la photo de ses ex-petites copines? Ça ne te pose aucun problème, puisqu'aujourd'hui il est avec toi. Donc ça ne te... Ah non, je ne vais pas accepter. Alors pourquoi tu vas accepter que le Dieu à qui tu as confié ta vie, tu viennes le voir avec ce que tu considérais comme tes dieux d'autrefois? Dieu ne peut pas accepter ça non plus. Pourquoi toi, tu voudrais que Dieu accepte ça? Et tu n'accepterais pas que celui qui vient avec toi marche avec la photo de ses anciennes conquêtes. C'est logique. Non, on ne peut pas. Lorsque le choix est fait, dans notre manière de vivre, il doit aussi être clair. Alors s'il y a chez nous des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, bien aimé, même si ça appartient, je ne sais pas, à ton arrière-grand-père, arrière-grand-mère, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, mais il faut s'en débarrasser. Mais la question c'est que si c'est si difficile à s'en débarrasser, ça veut dire que dans ton cœur, il y a un attachement qui est anormal. Parce que la réalité, c'est qu'on devrait être prêt à se détacher à tout ce qui concerne le monde. Donc s'il y a quelque chose que tu as du mal à te débarrasser, ça veut dire qu'il y a des sentiments anormaux vis-à-vis de cette chose-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On devrait être libre lorsque Dieu te dit, ça je n'en veux pas. Libère-toi de ça si tu veux avancer avec moi. On devrait même le faire avec joie. De savoir que, ben tiens, le Seigneur vient de m'éclairer sur quelque chose qui constituait un obstacle entre ma communion entre lui et moi. Donc, c'est que le Seigneur veut aller beaucoup plus loin avec moi. Et c'est ce que Josué a voulu faire comprendre au peuple. On ne peut pas indéfiniment vivre à gauche et à droite. À un moment donné, il faut faire un choix. Vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait autrefois. Vous avez vu les guerres que nous avons remportées, quelquefois contre des armées qui étaient beaucoup plus nombreuses. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez de plus que Dieu prouve pour montrer réellement qu'il est notre Dieu? Faites un choix maintenant. Nous prenons 1 Roi 18. Au verset 20. Acab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Voilà le problème que soulève Josué. Des années et des années avant, qu'on retrouve encore dans le peuple, qu'on retrouve encore au milieu d'Israël. La confusion d'être tantôt avec l'Éternel, d'être tantôt avec les dieux des autres nations. Alors Élie dit, mais jusqu'à quand allez-vous boiter des deux côtés? Jusqu'à quand allez-vous être indécis? Ou bien vous croyez en Dieu une fois pour toutes, ou bien vous ne croyez pas. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu et demain tu vas consulter les marabouts. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu et demain tu vas consulter des médiums ou bien tous ces gens-là qui prétendent pouvoir te guérir, je ne sais pas comment. Ou bien tu crois que Dieu est capable de s'occuper de toi et de te guérir. Ou bien tu penses que c'est les marabouts, que c'est les sorciers qui sont capables. Mais ça ne peut pas être un peu de Dieu et un peu du monde. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais malheureusement, les chrétiens fonctionnent comme ça. Les gens vont justifier que non, mais c'est la parole de Dieu, celui que tu appelles marabout, mais non, c'est quand même un pasteur. Ah, mais c'est un pasteur qui fait des pratiques qui ne sont pas dans la Bible. C'est un pasteur qui dit que pour te guérir, toi qui es femme, il faut que ça soit lui qui te fasse la toilette. C'est un pasteur qui dit que pour que ça marche, il faut que tu te laves avec l'eau pour laquelle moi j'ai prié. Mais montre-moi où c'est écrit dans la Bible. La Bible dit tout simplement qu'au nom de Jésus, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais ça devient toutes sortes de procédures. Tu prends ça, attache autour de tes reins. Tu prends ça, tu te laves avec pendant une semaine. Tu prends ça, tu laves la bouche le matin ou bien même des fois on te donne des heures. Ça c'est à minuit, après minuit, il faut surtout pas faire. Donc tu deviens comme, un pigeon voyageur qu'on obéit, à qui obéit, tu fais ceci, tu fais cela. Donc il y a pas de sens. Ou bien c'est Dieu, ou bien ce n'est pas Dieu. Mais si c'est Dieu, arrête-toi à lui et renonce à tout ce qu'il y a à côté une fois pour toutes. Élie dit ça et on peut sentir l'agacement qu'il y a dans les paroles d'Élie. Il dit, mais jusqu'à quand? Ça veut dire tout simplement que ce n'était pas la première fois. Et chose étonnante, c'est que lorsque Élie pose la question, la Bible nous dit au verset 21, le peuple ne lui répondit rien. Donc le fait de garder le silence, ça montre tout simplement que le peuple était partagé dans son cœur. Ça montre clairement qu'il n'était pas encore positionné. Il n'était pas encore positionné. Donc lorsque on n'exprime pas clairement le choix que nous avons fait, c'est comme un aveu. C'est comme si on disait, je ne suis pas encore sûr. C'est-à-dire que là où tu es et que ça demande à un moment donné que tu parles au nom du Seigneur, un débat ou bien une discussion qu'il y a, tu préfères ne pas te positionner. Tu préfères ne rien dire. Parce que tu sens que, mais ce qu'il dit, on dirait, c'est peut-être vrai. Tu es là en train de douter et tu ne dis rien. Le fait de ne rien dire, ça montre que on n'est pas encore positionné, que notre choix n'est pas encore clair. Mais Élie dit, jusqu'à quand? Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Jusqu'à quand allons-nous encore douter du Seigneur? Ou bien nous décidons de lui faire confiance une fois pour toutes, ou bien nous ne le faisons pas. Mais pas, Seigneur, je crois en toi aujourd'hui, parce que tu as guéri mon enfant, et puis demain parce qu'il te manque 100 euros, Seigneur, tu es où? Tu m'as abandonné. Seigneur, tu me bénis aujourd'hui, je te bénis, je chante, je loue. Demain, quand je trouve que le temps de célibat est trop long, Seigneur, mais tu m'as abandonné. Ou bien Dieu t'aime et tu le crois une fois pour toutes, ou bien Dieu ne t'aime pas. Dans ce cas-là, vis ta vie. Ou bien c'est Dieu qui est Dieu et nous avons fait le choix de marcher avec lui. Je ne suis pas en train de dire, bien-aimé, que le fait que nous puissions connaître des faiblesses, que nous puissions connaître des jours sans, je ne suis pas en train de condamner cela. Ça peut nous arriver à tous. Par le soutien de Dieu, par le Saint-Esprit, on se repent si on doit se repentir et on décide de repartir avec le Seigneur. Mais on ne va pas aller jusqu'à aller faire marche arrière parce qu'on trouve que pour ce problème-là, ça c'est un homme qui doit régler. Pour ce problème-là, je crois que si j'attends que Dieu agisse, en tout cas le Seigneur sera revenu avant. Donc on est là, tantôt avec le Seigneur, tantôt avec notre propre intelligence, tantôt avec le monde et les moyens du monde. Jusqu'à quand allons-nous boiter? Le Seigneur nous invite à avoir une position qui est claire. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon qui est le dieu de la richesse, le dieu de l'argent. On ne peut pas servir deux maîtres. Il y a des personnes qui pensent quelquefois maîtriser la situation. C'est-à-dire, ils ont le sentiment que je sais que je veux me repentir au bon moment. Donc c'est comme s'il est dans une vie qui ne plaît pas au Seigneur, mais au fond de lui il se dit non, je vais me convertir à temps ou bien je veux me repentir à temps. Donc il a le sentiment vraiment de maîtriser sa vie chrétienne et sa vie mondaine. Donc il est comme à l'aise dans les deux côtés. Il sent que bon, il regarde là-bas les chrétiens, il trouve que bon, je ne suis pas encore trop loin, je ne suis pas perdu, donc c'est bon, je peux continuer encore mon mélange. En même temps, j'essaie aussi d'assurer un peu dans le monde en voyant, bon, c'est telle voiture qui a la mode, bon, ça va, je ne suis pas loin. Tel vêtement, bon, je ne suis pas loin. Voilà, donc il essaie d'équilibrer dans ces deux côtés. Mais le Seigneur nous donne une réalité dans ce passage. Il nous dit tout simplement que sur le long terme, c'est impossible d'équilibrer deux choses. Il dit c'est impossible. Viendra un temps où tu seras obligé de faire un choix parce que ton cœur, petit à petit, va pencher sur un côté plus que sur un autre. Donc, à un moment donné, tu vas te retrouver carrément en dehors du Seigneur, à vivre véritablement comme quelqu'un qui est dans le monde, qui est revenu à sa vie passée. C'est comme si le Seigneur disait que c'est jouer avec le feu que d'être un pied dehors, un pied dedans. C'est jouer avec le feu. Nous ne savons pas de quoi est fait le lendemain. Il y a des gens qui pensaient tenir ferme, mais qui se sont totalement cassés la figure. Tous ceux qui se sont éloignés du Seigneur ne reviendront peut-être pas tous dans le Seigneur. Dans le livre d'Hébreux, il nous est écrit que ceux qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté aux manifestations du Saint-Esprit, qui ont été témoins de la gloire de Dieu et qui retournent dans le monde, la Bible nous dit qu'il est impossible pour qu'ils reviennent. Hébreux 6:4, il est impossible pour qu'ils reviennent. Jouer dans les deux camps, c'est jouer avec le feu. Tu ne maîtrises pas ta vie. Tu penses que tu auras le temps de te convertir. Tu penses que tu auras le temps de te repentir. Mais ce temps-là ne t'appartient pas. Il y a un moment donné, l'apôtre Paul avait prêché toute la nuit. Et la Bible nous dit qu'il y avait un jeune qui était là, qui écoutait aussi l'enseignement et qui était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est endormi. Il est tombé par-dessus la fenêtre et il est mort. Pendant que Dieu est en train de parler, il n'était pas attentif. Peut-être qu'il trouvait que c'était ennuyeux. Il n'était pas captivé par ce qui se faisait. Il est tombé par la fenêtre et il est mort. Alors si à ce moment-là, on prêchait et qu'on invitait les gens à donner la vie pour le salut, mais il serait passé à côté. Dieu lui a fait grâce parce que l'apôtre Paul a prié après pour qu'il ressuscite. Il est revenu à la vie. Mais tous les morts ne vont pas ressusciter. Tous les morts ne vont pas ressusciter. Le Seigneur n'a pas ressuscité tous les morts. Tous les morts ne ressusciteront pas. Ne prenons pas le risque de flirter dans les deux camps, de peur à la fin de toute chose de se retrouver dans le mauvais côté. Le choix, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Le Seigneur dit que lui, par son Esprit Saint, il peut nous soutenir. À celui qui peut nous préserver de toute chute. Le Seigneur peut nous soutenir. Vivre la vie chrétienne, c'est quelque chose qui est possible. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce que le Seigneur a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il a fait la promesse de nous soutenir. Même s'il y aura des temps difficiles, même s'il y aura des événements difficiles, il y aura des périodes compliquées, le Seigneur a fait la promesse de ne pas nous laisser orphelins, mais de venir à nous. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, ce sont les promesses du Seigneur. Et ces promesses sont valables. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Le choix, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Dieu ne te demande pas de venir à lui parce que tu es parfait. Certains disent, je vais d'abord résoudre tel problème avant de m'engager avec Dieu. Et vous voyez, lorsque Josué a parlé, il a dit au peuple de faire un choix, de faire le choix de l'Éternel. Mais il ne s'est pas arrêté à dire, faites un choix. Il a dit, non seulement faites le choix, mais il dit, servez l'Éternel. Donc le choix de venir à Dieu ne peut pas se limiter à dire, Jésus-Christ est mon Seigneur. Mais c'est un choix qui est suivi d'une conséquence, c'est-à-dire de servir Dieu. C'est en servant le Seigneur qu'on se maintient aussi dans la vie chrétienne. Parce que c'est dans le service que le Seigneur nous restaure. C'est dans le service que le Seigneur nous donne le nécessaire pour accomplir tout ce qu'il attend de nous. Mais quelqu'un qui ne sert pas Dieu, il veut être rempli de quoi et pour faire quoi? Et le fait d'être un observateur parmi tant d'autres nous expose aussi à la mort spirituelle. Dans ce passage-là, le Seigneur, lorsque Il parle de choisir un camp. Il parle encore de service. Donc, c'est pas simplement le dire, mon camp c'est Dieu. Mon camp c'est Jésus. Il dit non. Il dit servir. On ne peut pas servir deux maîtres. Donc, celui qui choisit un camp est forcément appelé au service. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais il est évident que pour servir, il faut que le choix soit clair. Il faut que le choix soit clair. Parce que le service auquel nous sommes appelés, c'est le Seigneur qui le définit. Mais Dieu le définit à partir du moment où il sait que tu es positionné. Il sait que ta vie lui est consacrée. Il y a un frère qui m'a appelé hier. Il avait le projet de faire une entreprise depuis des années. Et il se trouve là dans une période où il va bientôt lancer le projet. Alors, commencer ce projet-là l'a emmené à aller à l'étranger. Donc, il a laissé sa femme et les trois enfants pour partir près de 5-6 mois. Alors, il m'appelle hier avec un sentiment de culpabilité. Il me dit, voilà, je suis sur le point de partir. Et le Seigneur m'a posé une question. Le sacrifice que tu es en train de faire en laissant ta femme et tes enfants pendant 6 mois pour faire ton entreprise, est-ce que tu le ferais si moi je t'envoie d'aller prêcher ailleurs? Voilà ce que le Seigneur lui a dit. Et j'ai béni le Seigneur. Et ça lui a permis, lui, de revoir ses motivations et de travailler et de faire en sorte que ce projet d'entreprise soit tout simplement pour la gloire de Dieu. Le Seigneur lui a posé, voilà ce que tu fais pour ton entreprise. Et si moi je t'envoie 6 mois ailleurs, est-ce que tu iras? Il faut que le choix soit clair. Tant que le choix n'est pas clair, Dieu nous observe. Il ne nous confie pas de responsabilité parce que nous sommes encore mitigés. Le Seigneur dit qu'on ne peut pas servir de maître. Donc ceux qui ont plusieurs maîtres, faites un choix maintenant. Si tu es partagé entre le Seigneur et la mode risque de t'avaler un jour. Si tu es partagé entre le Seigneur et la richesse ou le travail acharné, fais un choix. Entre les deux, le Seigneur, ça ne lui convient pas. Mieux vaut que tu choisisses clairement l'argent. Parce qu'en faisant un choix, même qui est contraire à l'évangile, ça montre tout simplement ton honnêteté. Ça montre que tu es honnête, que tu ne triches pas avec Dieu, que tu ne triches pas avec les hommes, parce que ta position est claire pour tout le monde. Nous prenons Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Alors aujourd'hui, quand les hommes prennent position de cette manière-là, on va dire qu'ils sont extrémistes. Vous abusez, vous allez trop loin, vous êtes trop extrémistes, vous n'êtes pas conciliant, vous n'êtes pas indulgent, tout ce que vous voulez. Mais qui peut être plus extrémiste là, dans ces paroles-là que le Seigneur vient de dire? Il est clair. Il dit clairement que si vous n'êtes pas avec moi, c'est que vous êtes avec celui qui détruit. Parce qu'il dit, soit c'est pour moi, soit c'est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est-à-dire que celui qui ne travaille pas pour ma cause, il travaille pour celui qui détruit. Donc, il n'y a pas trois camps. Soit c'est un camp, soit c'est l'autre. Certains peut-être l'ignorent. Peut-être que tu l'ignorais aujourd'hui, en restant dans une position neutre, où tu ne fais du mal à personne, tu te contentes d'être un bon chrétien. Mais le Seigneur dit que si tu ne travailles pas avec moi, c'est que d'une certaine manière, tu contribues à détruire. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui se relâche dans le travail est le frère de celui qui détruit. Donc le Seigneur considère que quand tu te relâches dans une tâche qu'on t'a donnée, tu es au même niveau de celui qui détruit. Tu es au même niveau. Et un jour, on nous avait donné ce message-là en expliquant que celui qui construit une maison, il pose les fondements, il monte les quatre murs, et puis qui s'arrête là. Et celui qui a construit toute une maison, qui a fini, et qui vient détruire la maison. Mais quelle est la différence entre ces deux-là? Il n'y en a pas, puisque dans tous les cas, ni l'une ni l'autre n'est habitable. Donc entre celui qui s'est relâché, qui a arrêté la construction à un certain niveau, on ne peut pas y habiter, il n'y a pas de toiture, et celui qui a détruit, on est au même point. C'est que les gens sont toujours à la rue. C'est pourquoi il dit que celui qui se relâche dans son travail, qui faiblit dans son travail, c'est-à-dire quelque part qui néglige, Dieu le regarde au même niveau que celui qui a détruit. Et le Seigneur dit clairement que si tu n'assembles pas avec moi, si tu ne travailles pas avec moi, si tu ne travailles pas pour ma cause, tu contribues à disperser, tu contribues à détruire. Donc, fais un choix. Soit tu es avec le Seigneur et logiquement tu le sers, soit tu n'es pas avec lui. C'est une manière de nous dire, bien-aimés, que le Seigneur ne se contente pas que nous restons sur les bancs des remplaçants, sur le banc assis. Le Seigneur ne se contente pas de ça. Il ne veut pas sauver pour sauver. Il veut sauver pour que nous soyons des disciples. Il veut sauver parce qu'il y a une mission qui est là. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est la raison pour laquelle nous vivons. Peut-être qu'il nous arrive de l'oublier lorsque le train de la vie nous emmène dans ces histoires de technologie, ces histoires de mode qui occupent notre tête, qui occupent notre temps dans des choses qui finalement n'ont ni queue ni tête dans des discussions futiles. Et on est là en train de suivre et on se rend compte qu'au bout d'un moment donné, on a tourné en rond, on a satisfait notre chair, mais ça n'a pas fait avancer le royaume de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Et le Seigneur nous appelle à nous positionner, que notre positionnement soit clair. Je ne suis pas en train de dire que nous devons courir pour savoir « je vais travailler, je vais faire ceci ». Non, le Seigneur ne cherche pas l'activisme. Il veut d'abord que ton choix à toi, en ce qui concerne le choix que tu as fait, c'est-à-dire de suivre avec le Seigneur, que ton choix soit clair, devant Dieu, mais aussi devant les hommes. C'est pourquoi le Seigneur a dit que celui qui me renie, celui qui ne se déclare pas publiquement devant les hommes pour moi, moi non plus, je ne vais pas me déclarer pour lui devant mon Père et devant les anges. Donc le témoignage du Seigneur doit être quelque chose de visible. Le choix que nous avons fait ne peut pas se contenter à dire « oui, c'est entre moi et Dieu ». Ça ne marche pas comme ça. C'est entre moi et Dieu. Ça me regarde. Dieu connaît mon cœur. Je sais. Ça, c'est quand on veut tout simplement fuir la question ou bien se justifier. Le salut individuel. Moi, Dieu, de toute façon, Dieu me connaît. Dieu regarde à mon cœur. Oui, il n'y a pas de problème. Dieu te connaît, Dieu me connaît, il regarde à mon cœur, mais il regarde à ton cœur aussi. Ça, c'est vrai. Mais la Bible aussi dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, si tu as la foi et si tu as fait le choix, il doit y avoir la démonstration par les œuvres. Parce que la Bible le dit aussi. À Jésus-Christ seul sur la gloire, que le Seigneur nous aide. Amen. Seigneur, nous venons auprès de toi aujourd'hui encore, Seigneur. Nous humilier, Seigneur. Seigneur, nous voulons réaliser que marcher avec toi, c'est un privilège, Seigneur. Nous voulons réaliser ce soir, Seigneur de gloire, que te servir, c'est un honneur que tu nous fais, Seigneur. Tu as utilisé des animaux dans la Bible, Seigneur. Cela montre bien que tu n'as pas besoin des humains en réalité. Lorsque, Seigneur Dieu de gloire, Jésus est entré dans Jérusalem. On a voulu faire taire les humains. Mais il a dit, mais même si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Seigneur, tu n'as pas besoin des humains. C'est nous qui avons besoin de toi. Et nous voulons le réaliser, Seigneur, afin de prendre plaisir à te servir. Afin de prendre plaisir, Seigneur Dieu de gloire, à te consacrer nos vies. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où ma position n'a pas été claire. Je te demande pardon, Seigneur Dieu de gloire, pour toutes les fois où j'ai été dans l'hésitement, Seigneur. Pour toutes les fois, Seigneur Dieu de gloire, où j'ai été tenté de marcher un pied dedans, un pied dehors, éternel Dieu de gloire. Le pardon se trouve auprès de toi et tu dis, Seigneur de gloire, que tu ne te lasses pas de pardonner. Seigneur, accorde-nous encore ce soir ton pardon parce que tu es fidèle. C'est à toi que nous crions, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi que nous invoquons, Seigneur. Parce qu'il est écrit dans ta parole que lorsque le malheureux crie, tu entends. Et lorsque nous sortons de tes voies, Seigneur, nous sommes comme des malheureux. C'est pourquoi nous venons auprès de toi, Seigneur. Crier, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous croyons que tu entends. Tu es fidèle et tu es amour, Seigneur. La Bible déclare, Seigneur de gloire, que tu ne peux pas te renier. Tu as déclaré que tu nous aimais, Seigneur de gloire, et nous croyons que cette parole, Seigneur de gloire, tu ne l'effaceras pas, parce que c'est la vérité. Tu nous aimes, Seigneur. Et nous voulons apprendre à vivre, Seigneur Dieu de gloire, en nous contentant de ton amour, Seigneur, en acceptant ton amour, Seigneur. Aide-nous à nous positionner dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est à toi que nous adressons, Seigneur de gloire, notre prière. C'est vrai, Seigneur, c'est toi qui relèves notre tête. Lorsque le poids de la culpabilité, Seigneur Dieu de gloire, nous affaiblit, Seigneur. La culpabilité, Seigneur de gloire, de ne pas avoir fait le bon choix, d'avoir eu honte de toi, Seigneur. Cela nous culpabilise et nous donne, Seigneur de gloire, un lourd fardeau. Mais c'est toi qui relèves notre tête, Seigneur, c'est toi qui es notre gloire. Seigneur, merci pour ton salut. Parce que tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Nous ne prions pas à cause de nous-mêmes, parce que nous méritons quelque chose, Seigneur. Mais nous savons que ta parole dit vrai. C'est pourquoi, Seigneur de gloire, à cause de ta parole, nous venons crier à toi parce que nous savons que tu entends. Et nous savons surtout, Seigneur de gloire, que tu vas nous exaucer parce que tu es fidèle.